Les grands feuilletons de France Culture.
Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Vous avez donc, monsieur Rouletabille, une explication pour les deux coups de feu.
Parfaitement, monsieur le président. J'ai pu expliquer une partie du mystère de la chambre jaune en le décomposant en deux phases. Ceci étant admis, j'avais un coup de feu dans chaque phase. Un pour blesser l'assassin dans l'après-midi et un pour ce qu'on appelle le cauchemar. Rappelez-vous, dans son interrogatoire, le professeur Stangerson parle d'un coup sourd. Et les Bernier prétendent n'avoir entendu ce soir-là qu'un seul coup de feu. Ainsi étaient reconstituées les deux faces du drame quand j'ai pu pénétrer dans la chambre jaune. À l'évidence, la blessure de Mlle Stangerson n'entrait pas dans le cercle de mon raisonnement. Il était impossible qu'une telle blessure ait pu être faite par l'assassin avec un os de mouton lors de la première phase.
C'est-à-dire l'après-midi.
Exactement. Cette blessure était trop importante. Jamais malgré son immense courage, Mathilde n'aurait pu la dissimuler sous des bandeaux. Donc, la blessure avait eu lieu pendant la seconde phase. Or, la jeune femme, nous le savons maintenant, était seule dans sa chambre.
Je ne crois pas qu'un petit mystère comme celui-ci ait de taille à arrêter M. Rouletabille.
En effet, monsieur l'avocat général, je suis allé demander la réponse à la chambre jaune et elle a répondu.
Une lettre? Un document?
Non, monsieur le président, il y a dans cette enveloppe quelque chose de très précieux. Tenez, des cheveux blonds maculés de sang.
Et où les avez-vous trouvés?
Collés à l'un des coins de marbre de la table de nuit renversée. Ce coin de marbre portait lui-même une petite marque de sang.
Ce qui veut dire?
Ah ben, tout simplement que Mlle Stangerson se réveille en sursaut à un moment donné, affolée par son cauchemar, terrorisée par le coup de feu qui vient de partir. Elle se lève précipitamment alors que la table de nuit s'est renversée et elle tombe de tout son haut sur l'arête de marbre, d'où une blessure profonde qui saigne abondamment.
Larsan a déclaré qu'elle avait été frappée avec un objet contondant.
Monsieur le Président, le coin de marbre d'une table de nuit est aussi un objet contondant. Personne n'a pensé à ça, sauf moi. Bon, donc, à ce moment-là, je voulais connaître avec précision quand avait eu lieu la première phase du drame. Mademoiselle Stangerson et son père ont arrangé un bel interrogatoire pour égarer le charmant monsieur de Marquet, mais ça ne nous a pas empêché d'établir que l'assassin s'était introduit dans le pavillon entre 5 et 6.
Une heure? C'est bien long, ne trouvez-vous pas?
Tout à fait de votre avis. Tout à fait de votre avis, monsieur l'avocat général. D'ailleurs, voici mes notes. Le professeur et sa fille rentrent vers 6 heures au laboratoire. Le professeur déclare « Je fus abordé par mon garde qui me retint une minute. Courte conversation, on évoque une coupe de bois, les dégâts occasionnés par les braconniers. » Bien. Et à ce moment, où est Mathilde Stangerson ? Elle n'est plus là. Elle a déjà regagné le laboratoire. Alors, fin de la déclaration du professeur, je quittais le garde et je rejoignis ma fille qui était déjà au travail. C'est donc seulement pendant ces quelques minutes que le drame se déroula.
Et selon vous, monsieur Rouletabille, il s'est déroulé de quelle manière ?
Mathilde entre dans le pavillon, pénètre dans sa chambre et se trouve tout à coup face à face avec l'assassin. L'assassin qui se trouvait là depuis déjà un certain temps. Il s'était glissé sous le lit, comme nous le savons. Il avait fermé la fenêtre du vestibule après le départ du garde. Ce qui explique d'ailleurs que le professeur et le père Jacques, qui étaient encore éloignés du pavillon, n'aient pas entendu le coup de revolver. Alors donc, tout est en place. Mathilde découvre l'assassin, elle veut crier et il lui tient la gorge. Alors peut-être va-t-elle étouffer, être étranglée. Avant de perdre conscience, la jeune femme s'empare du revolver et tire à l'instant où l'assassin brandit l'os de mouton. L'homme blessé lâche son arme et le sang que l'on retrouvera dessus n'est d'ailleurs pas celui de Mathilde Stangerson, mais celui de l'assassin. Alors il est là, il titube, s'appuie sur le mur. Il y laisse la trace de sa main ensanglantée. Et comme il craint une seconde balle, il fuit, il ouvre la fenêtre du vestibule et se sauve. Mathilde l'a vu. Elle va fermer la fenêtre derrière lui et grâce à une énergie surhumaine, elle ferme la porte de sa chambre et gagne le laboratoire. Et nous retombons alors sur la déclaration du professeur Stangerson. Quand je suis arrivé, ma fille était déjà au travail. Monsieur Robert Darzac, vous savez la vérité. Dites-nous au moins si les choses se sont passées comme je viens de les décrire.
Je ne sais rien, monsieur Rouletabille.
Monsieur Darzac, l'ennui avec les héros et les martyrs, c'est qu'ils finissent toujours très mal et très jeunes. Si Mathilde était en état de savoir l'inculpation qui pèse sur vous, elle vous relèverait de votre parole. Elle vous supplierait de dire tout ce qu'elle vous a confié. C'est elle-même qui viendrait vous défendre.
Je ne peux rien dire, vous le savez.
Enfin, puisqu'elle n'est pas là, il faut que j'y sois, moi. Darzac, le meilleur moyen de sauver Mathilde et de lui faire retrouver la raison, c'est de vous faire acquitter.
Oui.
Les charges à retenir contre M. Darzac s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe. Mais voulez-vous une dernière fois éclairer ma lanterne, si M. le Président le permet ?
Je vous en prie, Monsieur l'Avocat Général.
Dites-nous, M. Rouletabille, par quel mystère et pour quelle obscure raison, Mademoiselle Stangerson, que l'on tente d'assassiner, dissimule cette odieuse tentative à son père.
Monsieur Darzac.
Oui, monsieur le président.
Une dernière fois, je vous le demande afin d'aider la justice et faciliter la tâche de ce tribunal. Vous vous enfermez dans un silence qui semble dicté par des sentiments très nobles et très hauts. Mais je vous le répète, nous sommes dans une enceinte de justice et la justice, comme l'amour, pardonnez-moi cette comparaison, a ses exigences.
Je sais, monsieur le président.
Refusez-vous toujours de nous dire, monsieur, quel a été votre emploi du temps à l'instant où l'on attentait à la vie de votre fiancée, mademoiselle Stangerson?
Monsieur le Président, ne voyez nul manque de respect à la magistrature, mais ces révélations ne m'appartiennent pas. Je ne peux rien dire.
Monsieur Rouletabille.
On peut évidemment penser, monsieur le président, que les absences de Robert Darzac sont étroitement liées au secret de Mathilde aussi. Se croit-il obligé d'observer la loi du silence, la loi de l'honneur?
Monsieur Rouletabille, trois tentatives de meurtre, et monsieur Darzac, curieusement absent, ne possède aucun alibi. Au regard de la justice, c'est terriblement fâcheux.
Monsieur l'avocat général, Larsan, à trois reprises, fait tout pour que les soupçons se portent sur Darzac. Trois fois, il fixe à l'inculpé des rendez-vous dans des endroits compromettants. Dès lors, notre héros se laissera plutôt condamner que de révéler la plus petite chose ayant trait au secret qui entoure la vie privée de Mathilde. Vous savez, Ballmeyer, alias Larsan, est assez intelligent pour l'avoir compris et en avoir largement abusé.
Et vous croyez l'assassin capable d'aussi sombres machinations?
Monsieur le Président, il en a fait bien d'autres.
Mais alors, quel est ce secret qui entoure la vie de la fille du professeur?
Monsieur le Président, je peux vous dire bien des choses.
Et jusqu'à maintenant, vous ne vous en êtes pas privé?
Oui, mais là, excusez-moi, je suis désolé, j'ignore totalement. Cela dit, quand je me suis présenté devant cette cour, je venais y tenir un serment. Vous donnez le nom de l'assassin. Fort légitimement, monsieur le Président, vous avez désiré une preuve de sa culpabilité.
Ça me paraît normal, non?
Ô combien! Je me suis donc arrangé pour que l'assassin vous fournisse lui-même la preuve de sa culpabilité, ce qu'il a fait.
Comment ça?
Monsieur le Président, Larsan a fui. Et ce, déjà depuis 2 heures. Je doute qu'il ne revienne jamais. Par conséquent, il signe là son forfait. Et c'est pourquoi je me permettrai une dernière remarque.
Je vous en prie, une de plus, une de moins.
Eh bien, je crois que vous en savez assez, monsieur le Président, et vous, messieurs du jury. Pour acquitter purement et simplement le client de maître Henri Robert, je veux citer monsieur Robert Darzac.
Avant de rendre monsieur Darzac à la liberté, ce qui n'est pas encore chose faite, je voudrais éclaircir avec vous un ou deux points qui restent encore obscurs.
Mais comme vous voudrez, monsieur le Président.
Nous comprenons, toujours en admettant votre thèse, que Larsan ait voulu détourner les soupçons sur Robert Darzac, mais quel intérêt avait-il en les faisant planer également au-dessus du père Jacques?
Mais c'est enfantin, monsieur le Président.
C'est sans doute pour cela que ça me dépasse.
Non, je vous demande pardon, je vous prie de m'excuser. Non, je veux dire qu'il y a dans ce phénomène la vanité, l'orgueil, la sûreté de soi, le culot, l'intérêt du policier. Qu'est-ce qu'il y a de plus grisant que d'accumuler des preuves pour mieux les détruire ensuite? La gloriole, je vous le dis. Et en plus, c'est très fort. C'est un truc que Larsan a souvent utilisé pour détourner des soupçons qui auraient pu à la longue se fixer sur lui-même. Prouver l'innocence de l'un avant d'accuser l'autre. C'est superbe, non? Il faut dire également qu'une affaire comme celle-ci n'a pas été improvisée, monsieur le Président. Elle a été mijotée de longue date par Larsan.
Mais enfin, Larsan ou Ballmeyer, ce n'est tout de même pas le diable.
Oh, je n'irai pas jusque-là, mais presque. Sachez que le laboratoire des recherches de la Sûreté nationale travaillait en étroite collaboration avec le professeur Stangerson, à qui, comme par hasard, Larsan demandait d'effectuer des expériences. Et c'est de cette manière qu'il a pu à 2 reprises... pénétrer dans le pavillon avant le drame.
Est-ce possible?
C'est tellement possible, monsieur le Président, que Larsan, déguisé comme il l'était, n'a jamais été reconnu par le père Jacques. Ce qui lui a permis naturellement de faire main basse sur une vieille paire de chaussures appartenant justement au père Jacques, ainsi qu'un béret usagé, et le tout noué dans un mouchoir. Ces vestiges pratiquement hors d'usage étaient destinés, nous le savons maintenant, un ami du père Jacques, le charbonnier sur la route d'Épinay.
Dans ce cas, comment expliquez-vous, monsieur Rouletabille, que le père Jacques n'ait pas, depuis le début de l'enquête, reconnu ses affaires.
Ah, je me doutais de cette réaction, monsieur l'avocat général, mais mettez-vous quelques instants, s'il vous plaît, à la place du père Jacques. Tout ça était bigrement compromettant, non? Et ça explique le trouble de cet être simple quand, à cette époque-là, nous lui en avons parlé. Reconnaître les objets, dites-moi, c'était un peu faire figure de coupable, non? Ah!
Encore un point important à résoudre, monsieur Rouletabille.
Mais je vous écoute de toutes mes oreilles, monsieur le président.
Vous avez profité de la dernière suspension d'audience pour avoir un entretien avec Frédéric Larsan.
Exact.
Important, cet entretien ?
Très important.
Quel a été le sens de cette conversation ?
Un sens unique.
Non, je vous en prie, monsieur Rouletabille, ne plaisantons pas.
Oui.
De quoi avez-vous parlé ?
Mais c'est surtout moi qui ai mis la conversation sur les rails. J'ai dit à Frédéric Larsan qu'il était démasqué, que je possédais toutes les preuves. Ça l'a fait rire, mais jaune.
Vous avez pris de gros risques, monsieur Rouletabille. À cet instant, Frédéric Larsan était encore un des policiers les plus éminents de la Sûreté Générale.
Moi, j'ai eu le sentiment qu'il n'y croyait plus beaucoup. Et il mesurait bien les conséquences de son échec.
A-t-il dit quelque chose d'important pour le procès ?
Oui et non.
Mais encore ?
Il a avoué.
Je savais.
Verbalement. Il l'a fait du reste sans grandiloquence, mais avec une lueur de satisfaction dans les yeux, du panache. Car, monsieur le président, messieurs les jurés, Larsan Ballmeyer est un bandit, et j'espère vivement que ça ne fait plus de doute pour personne, mais, à sa manière, c'est également un artiste. Hélas, un artiste du crime. On a déjà employé cette expression en parlant de Lassner, vous vous souvenez ? Lassner était un sanguinaire, Larsan, lui, un scientifique. D'ailleurs, à cet égard, il serait prudent de revoir les rôles qu'il a tenus dans les affaires du Crédit Universel et des lingots de la monnaie. Car il est probable que quelques innocents se morfondent à l'ombre depuis que Larsan Ballmeyer appartient à ce corps d'élite qu'est la Sûreté Générale.
Silence ! Silence dans la salle !
Voilà, j'ai terminé, monsieur le président.
Merci, monsieur Rouletabille. Des questions, monsieur l'avocat général ?
Non.
Maître Henri Robert ?
Président.
Merci. Monsieur l'avocat de la Défense ?
Monsieur le Président.
Je reconnais bien volontiers avec vous que ce procès n'a jamais été empreint de la plus petite marque d'orthodoxie judiciaire et légale. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur à la Cour et bien vouloir rendre témoignage de sa bonne foi.
Oh, bien volontiers, monsieur le Président, d'autant que les débats ont été passionnants et que je n'ai pratiquement rien eu à faire.
Et que votre tâche de ce fait a été particulièrement simplifiée. Il ne vous reste plus que de bien vouloir accepter les excuses du Président de cette cour d'assises.
Oh, votre intégrité est trop connue, monsieur le bâtonnier, pour qu'en la circonstance, je ne puisse y rendre hommage.
Merci, maître. Je vous propose donc un dépôt de conclusion afin que l'affaire soit renvoyée à une autre session pour supplément d'information. Je verrai à ce qu'un mandat d'amener soit délivré à l'égard de Larsan.
Mes conclusions seront sur votre bureau ce soir même, monsieur le président.
Monsieur l'avocat général.
Oui, monsieur le président.
Est-ce que le ministère public s'associe au dépôt des conclusions de la défense ?
Mes conclusions seront sur votre bureau au même instant que celles de maître Henri Robert.
Monsieur le président, monsieur l'avocat général, il va de soi que le dépôt de ces conclusions s'accompagne de la relaxe immédiate de mon client, monsieur Robert Darzac.
C'était sous-entendu, maître. Gendarme, que monsieur Darzac soit élargi immédiatement. Il est maintenu à la disposition de la justice et bénéficie de la liberté provisoire jusqu'à l'instruction du nouveau procès. L'audience est terminée.
Joseph, je n'ai pas peur des mots.
Aujourd'hui, vous avez fait un triomphe. Ah si, un triomphe. Ne soyez pas modeste.
Mais je ne suis pas.
Je me disais aussi. Bref, dans ce train qui nous emmène loin du tumulte versaillais, laissez-moi vous dire toute mon admiration, Joseph, c'est bien simple. La commune a vaincu.
Là, c'est peut-être très exagéré.
Mais je ne trouve pas.
Votre admiration vous égare,
mais
mon
pas
cher.
Du tout, pas du tout. Un avocat se doit d'être lucide. Or, j'ai suivi grâce à vous toute l'enquête et je dois dire que la façon dont vous avez démasqué Larsan, chapeau. Alors ça, c'était grand, fabuleux. Les mots me manquent.
Ah ben, j'aime autant. Vous n'en avez dit plus que suffisamment. Ah, vous savez, nous avons tous un cerveau. Il faut essayer d'utiliser au maximum de ses possibilités.
Et je ne crains pas d'affirmer que le vôtre est lumineux.
Mon bon maître, l'amitié m'oblige à dire que vous résonnez comme un tambour.
Ah, ça recommence.
Ce n'est pas dans vos habitudes. Non, restons calmes, Sinclair. Restons simples. Nous y trouverons tous les deux de l'agrément.
Eh bien, comme vous voudrez.
Alors, je suppose que vous m'avez réservé des tas de questions.
Ben, certes. Car enfin, tout ce qui vient de se passer ne me dit pas ce que vous êtes allé faire en Amérique.
Allons, bon, je croyais pourtant avoir été clair sur ce point.
Et quand nous avons quitté définitivement le château du Glandier, vous saviez que Frédéric Larsan était coupable ?
Ah, ça oui.
Vous le saviez, et de plus, vous avez démonté tout le système qu'il avait mis au point pour commettre ces assassinats.
Mais on ne peut rien vous cacher, Sinclair. Mais ne me dites pas que, quand même, vous ne vous doutiez de rien.
Ah, de rien, mon vieux, de rien. Absolument de rien.
Oh, c'est incroyable.
Bah, avouez, parce que ça fait partie de votre caractère, que vous aviez pris bien soin de me dissimuler l'essentiel de votre pensée. Et je ne vois pas comment j'aurais pu faire pour deviner. Quand je suis arrivé au château, avec les revolvers, que vous m'aviez demandé d'apporter d'ailleurs, vous soupçonniez déjà Larsan à ce moment-là ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que je venais de résoudre le problème de la galerie mystérieuse.
Bon, mais le retour de Larsan dans la chambre de Mathilde a dû modérer vos assurances.
Il est vrai que jusqu'à la découverte des lunettes de presbyte, je suis resté un peu dérouté. À disons que mes soupçons étaient, sans la moindre preuve, des soupçons mathématiques.
Et malgré ça, l'idée que Frédéric Larsan pouvait être l'assassin, à ce moment-là, une idée incroyable, avouez-le. Cette idée insensée, vous l'avez acceptée tout naturellement.
Décidément, mon bon maître, vous me prenez pour un faible d'esprit.
Moi ? Oh, pas une seconde. Non, j'essaie seulement d'analyser.
Mais bien sûr que non. C'est vrai que cette idée m'apparaissait si formidable que j'étais résolu à attendre des traces sensibles avant d'oser m'y arrêter davantage.
Ah, quand même.
Ça dit, c'est vrai, cette idée me tracassait. Et je me souviens d'avoir eu, à différentes reprises, une façon de vous en parler qui, quand même, aurait dû vous mettre en éveil.
Non. Vous m'avez dit des choses qui auraient pu me permettre de soupçonner Larsan.
Ah oui.
Moi ?
Parfaitement.
C'est pas ça, alors ?
Premièrement, je ne mettais plus aussi souvent en avant la bonne foi de ce policier hors pair.
Peut-être.
Ah, bah, peut-être, sûrement. Et deuxièmement, je ne vous disais plus qu'il se trompait.
C'est exact.
Troisièmement, je vous ai dit ce que je pensais de son système de déduction et son côté un peu primaire.
Oui. Enfin, moi, j'ai mis ça sur l'envie bien légitime que vous aviez de vous montrer plus astucieux que lui. Avec d'ailleurs un soupçon de mépris.
Ah, ça c'est vrai, de mépris, car à cet instant, j'avais cessé de penser au policier. D'où mon mépris pour le bandit. Ce bandit que je le soupçonnais d'être.
Joseph. Joseph, est-ce qu'il n'y a pas là une montagne de subtilité qui échappe forcément à un pauvre esprit comme le mien ? La subtilité d'un avocat est tellement différente de la subtilité d'un journaliste.
Croyez-vous ?
Oh, j'en suis sûr.
Et pourtant, quand je vous énumérais toutes les preuves qui s'accumulaient contre Robert Darzac, je m'entends vous dire, tout ça semble donner quelque corps à l'hypothèse du grand Frédéric Larsan.
Oui, je me souviens. Je me souviens, en effet. Et vous avez ajouté... C'est du reste cette hypothèse que je crois fausse qui l'égarera.
Et c'est maintenant que la subtilité entre en jeu.
Tiens donc.
Ah oui. Souvenez-vous précisément de la fin de ma phrase.
Très clairement.
Bon, ben c'est ça qui aurait dû vous mettre sur la voie. J'ai ajouté, ça aurait dû vous faire tomber des nues. Seulement, voilà, cette hypothèse égare-t-elle vraiment Frédéric Larsan ? Voilà.
C'est vrai. C'est vrai, je me souviens, mais comment ajouter une importance déterminante à toute cette succession de voilà, voilà, voilà.
Oui, langage sibyllin, je vous l'accorde, mais ça aurait dû vous donner à réfléchir, car je ne suis pas l'homme de ce genre de phrases qui reste en l'air.
Oh, écoutez, Joseph, vous êtes pas sérieux, là.
Mais je ne pouvais pas faire mieux en l'occurrence, et tous mes soupçons étaient contenus dans ces voilà.
Oh, écoutez, il m'aurait fallu une balance de postier ou de pharmacien pour mesurer et peser toute l'importance de cette phrase. Il y a au moins l'honnêteté de le reconnaître.
Oui, sans doute. Mais il fallait, mon bon Sinclair, une oreille peut-être plus affûtée que la vôtre.
John.
Enfin, heureusement, tout est terminé.
Oh, pour vous peut-être, mais pas pour moi. Je vais profiter de cet omnibus qui nous ramène vers Paris pour vous tirer tous les vers du nez.
Ah, j'ai horreur de cette expression. Oh, j'ai horreur. Ben enfin, si vous me laissez allumer ma pipe tranquillement, nous ferons ensemble mon article pour l'Époque.
Très bien. Eh ben, j'irai même jusqu'à fournir du feu. Voilà, voilà, voilà.
C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 24e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Darzac, Michel Rull, Maître Henri Robert, Pierre Olivier, le président Recoux, Claude Pieplu, l'avocat général, Jean Brassat, le greffier, Bernard Musson, et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amcy, Alain Kerval. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierre.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 1er septembre 1983. Après le mystère de la chambre jaune, allait paraître le parfum de la dame en noir, puis Rouletabille chez le tsar, le château noir, les étranges noces de Rouletabille, Rouletabille chez Krupp, le crime de Rouletabille, Rouletabille chez les bohémiens. L'écrivain José Cabanis revenait en 1993 sur les avatars de Joseph Rouletabille.
Il y a un élément qui intervient au moment du château noir, qui fait que le personnage change. C'est comme si Tintin... Marqué, je n'ai pas lu tous les Tintins, ben j'en ai lu beaucoup, mais enfin, je ne me rappelle pas que Tintin fut amoureux, n'est-ce pas ? Alors, Rouletabille, le château noir, il est amoureux à ce moment-là. Alors, son intelligence, évidemment, diminue, c'est plus pareil, n'est-ce pas ?
Oui, là, il se trouve, pour la première fois, écrit Gaston Leroux, devant le mystère du cœur féminin, auquel il ne comprenait rien du tout.
Voilà, le mystère du cœur féminin. Alors, aussitôt, il y a des mots qui me viennent à la bouche et que je ne dirai pas, mais il devient un peu sot, n'est-ce pas ? Parce qu'il est en admiration devant une poupée, on ne sait pas pourquoi. Ça change tout à fait l'intérêt de la chose, le cœur du sujet n'est plus la même chose. Et dans le livre suivant, il y a Rouletabille chez Krupp. Alors dans Rouletabille chez Krupp, ça se passe pendant la guerre de 14, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il va chercher dans la Ruhr, et il cherche à identifier, repérer et puis annuler une énorme torpille géante qui doit anéantir Paris. Et là, évidemment, il a la quarantaine bien sonnée. Ce n'est plus du tout le jeune reporter amusant, drôle, prime sautier, inattendu, imprévisible, qu'il était dans ses débuts. Il a vieilli, et à mon avis, c'est dommage pour lui qu'il ait vieilli. J'aurais aimé, moi, qu'il disparaisse, qu'il meure à 21 ans, ça me suffit. La suite ne m'intéresse pas.
José Cabanis, le 23 août 1993, sur France Culture. À réécouter et à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Et demain, bien sûr, à la même heure, vous ne manquerez pas le dernier épisode du mystère de la chambre jaune.